Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Immo et Radio Territoria.
De retour sur l'antenne de Radio Immo, Radio Territoria, nous sommes au CIPCA, Carrousel du Louvre, c'est la deuxième journée, mardi 8 octobre. Et je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Céline Crestin. Bonjour Céline.
Bonjour.
On s'était vu au MIPIM l'année dernière. Mm-hmm. Vous êtes directrice de la stratégie du développement responsable à Paris La Défense.
C'est exact.
À l'établissement public. Bon, comment va La Défense ?
La Défense va plutôt bien.
Plutôt bien.
Face à un enjeu de transformation sur lequel on s'engage, on s'emploie, et beaucoup d'initiatives dont je vais pouvoir vous parler.
Exactement. On a vu une évolution de la défense, on en discutait hors antenne, mais on a vu une évolution. La défense d'avant Covid n'est pas le même que la défense d'après Covid, vous le constatez aussi ?
C'est sûr, le moment des confinements a été un choc pour la défense,
ouais.
Aussi bien... le quartier que l'établissement public. Et je dirais par l'image médiatique qui avait tendance à montrer en illustration du confinement le quartier d'affaires totalement vide, qui amenait même plus globalement à s'interroger sur mais à quoi ça sert les quartiers d'affaires alors que l'économie continue à tourner.
Est-ce que le bureau est mort ?
C'est ça, voilà, ça exactement. Et nous, ça nous a amené en 2020 à nous questionner en interne. On a une mission d'intérêt général qui est définie par la loi, mais on s'est dit, en fait, ce qui est aménager un grand secteur autour de la défense et puis gérer le quotidien du quartier et aussi faire son animation. Mais on s'est dit, est-ce que ça suffit pour avoir donné envie aux gens de revenir au travail ? Et on s'est dit, peut-être pas. Donc on a choisi la démarche qui était prévue par la loi Pacte, normalement pour les entreprises, de s'interroger sur, au-delà de leur profitabilité, c'est quoi leur sens pour la société.
Ouais.
Donc on s'est mis dans cette démarche-là qui amène beaucoup à interroger nos parties prenantes. On l'a fait aussi avec nos salariés. Ça nous a amené à nous dire, effectivement, notre raison d'être, elle doit être plus que notre mission d'intérêt général, qui est un peu descriptive de ce qu'on fait, mais qui manque un peu de profondeur et de sens. C'est ce qui nous a amené, après tout un travail avec nos actionnaires publics, mais aussi des utilisateurs et des investisseurs du quartier, à faire le choix d'une ambition de devenir le premier territoire post-carbone de dimension mondiale en termes de quartier d'affaires. Et c'est un peu l'horizon vers lequel on organise toutes nos démarches qui place l'environnement au cœur. Mais en fait, les trois piliers de l'ESG sont intégrés dans cette dimension post-carbone. L'environnement, on pourra en parler. Le social, ouais. Ne pas oublier l'humain à la défense. Il y a 51 000 salariés, 52 000 habitants, 70 000 étudiants. Donc
oui.
Clairement, il y a un poumon vivant représenté par tous ces êtres qui viennent tous les jours à la défense. Et puis, la dimension gouvernance nous a amené à développer de nouvelles pratiques de travail.
Vous venez de le dire, la Défense, c'est pas qu'un quartier d'affaires. On le connaît pour ça, hein, parce que c'est le plus grand quartier d'affaires en Europe, si ma mémoire est bonne.
C'est vrai.
Mais c'est aussi un quartier de vie, et c'est un quartier étudiant, mm-hmm. parce qu'il y a beaucoup d'universités et d'écoles qui arrivent et qui sont arrivées à la Défense.
Tout à fait. Dans les 5 dernières années, je crois que c'est à peu près multiplié par 2 le nombre d'étudiants à la Défense. Il y en a 70 000 sur le territoire, dont 35 000 à la Défense. Et les écoles sont arrivées, en toute honnêteté, plutôt par la disponibilité d'une offre immobilière très flexible, et avec des loyers attractifs dans des immeubles prime et des immeubles qui savaient répondre à leurs besoins de flexibilité. Ils n'ont plus besoin de grands espaces pour des cours magistraux, c'est plutôt des petits espaces et des espaces très flexibles. Et je trouve que ce qui est intéressant avec les acteurs de l'enseignement supérieur, c'est qu'ils sont vraiment dans une logique d'intensification de leurs usages. Souvent, c'est des ERP avec des taux de fréquentation et de nombre de personnes qui peuvent accommoder dans les immeubles vraiment très importants. Ça amène un nouveau regard sur les actifs de la défense. Ça amène aussi une vie tous les jours, parce que les étudiants, ils viennent du lundi au vendredi. Ils arrivent très tôt le matin et parfois, ils partent à 22h, parce que les cours, notamment en enseignement continu, en formation, continue. Et à Cœur Défense, il y a le SCE qui a installé plusieurs écoles du groupe Omnes. Et en fait, ça fait partie de bien mieux qu'un quartier d'affaires que d'avoir 70 000 étudiants. Et
parce qu'il faut avoir une vie quand on sort de cours. Si on a une pause de 18h à 19h, il faut qu'il y ait une vie dans le quartier.
Donc ça amène nouvelle clientèle pour les restaurants, les bars de la Défense. Il y a encore un vrai potentiel d'ailleurs de développement d'une offre avec la pinte à un prix accessible pour les étudiants. Et on donc d'ailleurs, on a fédéré les 55 écoles qui sont installées sur le territoire dans une démarche qu'on avait annoncée aux états généraux de la transformation des tours l'année dernière, qu'on a appelée Campus Paris La Défense. Et l'idée, c'est de réfléchir avec les entreprises et avec les écoles pour ne pas rester dans la juxtaposition. Ouais. C'est pas parce qu'il y a des étudiants et des entreprises que tout d'un coup, magiquement, les relations se font. Donc on coordonne ça et on a deux projets en cours, un festival de l'emploi qui aura lieu l'année prochaine pour faciliter le fait que les entreprises trouvent des apprentis et que les apprentis des écoles trouvent
des jobs. Il y a une main-d'œuvre qui est à disposition.
Absolument, des stages, des premiers emplois. Il y aura une dimension inclusion et insertion dans cette dimension-là qui est née dans un programme très ESG qu'on a mis en place avec Bicorp, dont je pourrais vous parler, qui est une attente des 20 entreprises des deux premières promotions que de mettre en place ce volet-là dans notre festival de l'emploi. Et puis on réfléchit aussi à créer un lieu mutualisé pour les écoles et les étudiants, qui serait un lieu de travail un peu en coworking étudiant, un lieu de restauration, parce qu'il n'y a pas de restaurant universitaire à La Défense, mais aussi un lieu sympa pour aller prendre un verre. Et bien sûr, ce ne sera pas interdit aux salariés d'y aller, permettant le mixage des publics.
Vous parlez de cette stratégie ESG. Comment est-ce qu'on l'aborde dans un espace aussi grand et aussi important que La Défense ?
Mais comment on l'aborde, notamment dans un quartier conçu au moment des 30 Glorieuses, où ouais. la question de sobriété n'était pas du tout à l'agenda et non. où, au contraire, c'était plutôt une démonstration de toute puissance de l'immobilier, de la fabrication de la ville française. Donc c'est un changement culturel, faut pas le nier. Mais l'écosystème est très puissant. Le fait d'avoir des écoles d'enseignement supérieur, je le disais, des acteurs de l'immobilier avec des acteurs qui sont présents depuis très longtemps, mais aussi et de plus en plus des PME qui arrivent sur le quartier parce que les immeubles sont devenus divisibles. La force de la situation immobilière actuelle, c'est que ça rend flexible.
On transforme les modèles.
Exactement. Personne n'attend aujourd'hui de louer l'intégralité d'un immeuble à une seule entreprise. On n'est plus dans ce cas de figure-là. Ça devient marginal. Mais en revanche, les propriétaires d'actifs, ils sont devenus assez agiles pour penser les plateaux divisibles et permettre de nouveaux entrants à La Défense. Il y a plus de prises à bail qui sont souvent sur des surfaces plus petites, mais avec des nouveaux entrants intéressants, des PME, des nouveaux secteurs comme le luxe, la dimension logicielle, e-commerce, etc., qui se sont beaucoup développés ces dernières années et qui renouvellent le tissu économique de La Défense et qui créent de nouvelles opportunités de collaboration intersecteur.
Et ça veut dire aussi que les typologies de projets changent. Fini la construction de grandes tours, comme on a pu le voir, est-ce qu'on va être sur une autre construction de projet ?
Alors, comme le dit Franck Boutet, le Grand Prix de l'urbanisme, même à La Défense, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience que 80% des immeubles de 2050 sont déjà là. Ouais. Donc, il y a un vrai enjeu de réintervention sur l'existant, aussi pour capitaliser sur le carbone incorporé. C'était toute la démarche des états généraux de la transformation des tours, parce qu'on a fait le diagnostic que le bilan carbone territorial, qui représente à peu près 1 million de tonnes équivalent CO2 émises chaque année, il y en a près de 45% qui sont sur l'immobilier et l'existant, la consommation énergétique des bâtiments. C'est un vrai levier de décarbonation, par conséquent, et donc l'enjeu, c'est aussi peut-être de sortir de ce qui a pu être une pratique à La Défense il y a déjà quelques années, démolir un petit immeuble pour en construire un gigantesque. Ça va être beaucoup moins fréquent. Et en revanche, il y a tout un potentiel de transformation d'immeubles. Il y a déjà des exemples, d'ailleurs. Un ancien hôtel de bureau à Puteaux est devenu un hôtel Mama Shelter, dans une transformation qui a développé un peu de nouvelles surfaces, mais un super hôtel qui amène aussi des restaurants, un super rooftop. Et c'est possible de le faire dans les immeubles. Il y a aussi des enjeux de rénovation. Il y a à peu près 1 million de mètres carrés qui ont été construits avant les réglementations thermiques. Il est important de réinvestir sur ce capital pour qu'il passe le décret tertiaire, mais pour aussi qu'il incorpore les aménités qui seront déterminantes pour maintenir l'attractivité du quartier, pour donner envie aux étudiants qui sont aujourd'hui dans les salles d'enseignement du quartier de prendre un job à La Défense. Clairement, on a encore du travail sur la restauration, les équipements sportifs, dans une logique d'intensification de ce qui est déjà construit, permettant qu'il y a des amphithéâtres facilement accessibles directement sur la dalle sans avoir besoin de passer par les porte-à-badges ou des espaces sportifs qui permettraient à tel endroit d'avoir un terrain de basket intérieur, à tel endroit une salle de sport ou une salle de danse. Et pour le coup, pour avoir visité Chicago il y a quelques temps, ce développement des services sportifs est assez incroyable. Dans un immeuble rénové, j'ai vu plusieurs rings de boxe et sur un rooftop, sur le dernier étage d'une tour, un terrain de basket.
Excellent.
Et pour optimiser l'utilisation, le jour où on y est venu, c'était un vendredi, ils étaient en train dans les deux espaces de dérouler un tapis rouge pour faire un mariage, parce que intensification d'usage, on loue quand c'est pas utilisé. Bah, c'est ce genre de choses qu'on pousse à la défense et qui amène à penser différemment la conception, d'intégrer plus souvent des ERP. C'est un peu plus cher parce qu'il y a des contraintes, mais en IGH, c'est assez facile à incorporer. Et par ailleurs, ça crée des revenus récurrents parce que quand ils ne sont pas utilisés, ils sont faciles d'accès, c'est pas très compliqué de les ouvrir et du coup de les louer.
Oui, en fait, c'est ce que j'allais vous dire, avec le taux de vacances qu'on connaît, mais qui n'est pas une fin en soi, j'ai bien compris qu'il y avait une transformation du coup qui était en cours. Est-ce qu'on réfléchit effectivement un peu plus du coup à la transformation de l'usage du bâtiment ? On connaît une crise du logement, est-ce que le bureau pourrait pas se transformer en logement ?
Alors tout à l'heure je vous disais 70 000 étudiants qui viennent étudier sur l'ensemble de nos 6 km carrés, et bien ça c'est vrai, mais aujourd'hui vu que ça s'est fait par opportunité immobilière, l'offre de logements étudiants n'a pas suivi, donc il y a des projets, il faudrait qu'il y en ait plus, et on pense que certains immeubles sont tout à fait appropriés pour du logement étudiant, du logement en résidence gérée pour des actifs, et tout à l'heure à la conférence où j'intervenais, Christelle Zordan évoquait l'importance de pouvoir disposer pour les entreprises d'une offre de logement flexible à proximité, qui est plus du résidentiel que du logement, avec service pour les salariés qui sont de passage, et notamment ceux qui font du télétravail, qui ne sont pas sur ce site-là. Clairement, à la Défense, il y a cette capacité. Et bien plus, dans cette approche immobilière qui a un investisseur et un exploitant qui gère l'ensemble d'un immeuble ou d'un programme résidentiel, que dans du logement familial en copropriété. En France, on a connu des copropriétés sur des grands objets immobiliers, des immeubles de grande hauteur. Et on voit bien toute la difficulté que ça crée. Ça peut devenir, parce que les charges sont très élevées, des copropriétés dégradées. C'est vraiment pas l'optique. Mmh. Mais entre l'offre résidentielle étudiant, résidence gérée, du co-living avec des espaces communs et des différents formats de chambres, en fait, permettant de la colocation, notamment quand on a un début de carrière. Moi, j'ai fait ça, de la colocation pour mes premières années. On faisait dans le diffus, clairement il y a toute une sphère, un segment de l'offre immobilière qui est en train de se structurer. La Défense est parfait pour ça.
Allez Céline, on se projette un peu, on est au CIPCA mais pas en 2024, en 2034. Elle ressemble à quoi la Défense?
Alors moi je ne sais pas raisonner à 10 ans, pour moi, en tout cas me concernant, alors sur le quartier, alors si on a tenu nos engagements, et mon job c'est de faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, de tenir nos engagements, à l'échelle territoriale, on aura divisé par deux les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, ce qui veut dire qu'on aura fait de la transformation sur les immeubles. Entre 200 et 300 000 mètres carrés à cet horizon-là devront avoir été transformés, et j'y compte bien. Et en fait, c'est même un levier de création de valeur, parce que aujourd'hui, les loyers, ils sont très attractifs et ça attire beaucoup d'entreprises, mais ils sont aussi beaucoup moins élevés qu'à Paris, parce qu'il y a une offre de bureaux plus importante que la demande. Je pense qu'il est temps de le constater. Pour en créer de la valeur, il faut en détruire. C'est très schumpeterien comme principe, mais en fait, on en est là. Et je pense que aujourd'hui, il y a un peu deux approches. Il y a tabler sur le fait que le bureau pourra se louer et sur des loyers qui sont du loyer historique, et puis attendre. Et c'est un peu ce qu'on constate. Et je pense qu'on va enclencher cette dynamique. C'est pour ça que je le mets comme ingrédient à votre réponse, à la réponse à votre question. En raisonnant sur du yield management, trouver des destinations et des fonctions qui répondront à une demande, qui du coup seront remplies. Du coup, l'offre résidentielle se sera développée sur différents formats qui n'existent peut-être pas aujourd'hui. Je pense qu'on aura aussi beaucoup travaillé sur la végétalisation du quartier. C'est notre ADN en tant qu'aménageur sur ce secteur surdal que en travaillant l'adaptation du quartier au dérèglement climatique qui va se passer de toute façon. On a des vrais enjeux sur l'îlot de chaleur, de confort urbain. Donc on a des programmes d'investissement importants comme le développement d'un parc urbain entre Esplanade et la station de RER, où on va inverser la proportion entre les espaces végétaux qui sont déjà présents aujourd'hui, il y a pas mal d'arbres, et les espaces minéraux, on va passer à 60% d'espaces végétaux sur 5 hectares. Donc ça, on l'aura fait à cet horizon-là. Je pense qu'on aura enclenché la réflexion sur le parvis, permettant de tenir compte de l'augmentation des températures, mais en capitalisant sur l'effet Venturi qui existe entre les tours, qui peut créer un effet rafraîchissement, et où les tours petit à petit seront transformées. J'espère aussi, et rénover, j'espère aussi qu'on aura développé la juste intervention sur les immeubles. Parfois, il s'agit plus d'intervenir sur les systèmes ou de faire une rénovation économe en carbone plutôt que de systématiquement changer la façade, etc., pour faire plus moderne. Je pense que l'enjeu de sobriété dans les interventions, elle est intéressante parce qu'elle permet d'aller plus vite, d'être dans des travaux plus courts, donc plus acceptables, notamment pour les riverains qui habitent à côté des immeubles. Et puis, elles sont plus faciles à financer parce qu'elles répondent très bien, elles sont très ciblées sur les aspects de réduction d'émissions, et donc ça correspond aux critères de la finance durable. Voilà. Et peut-être qu'on aura mis en place un rêve que j'ai, c'est un pool de financement pour aider les acteurs de l'immobilier à se décarboner, parce que si on arrive à mettre tous ces immeubles dans la trajectoire de décarbonation, en fait ils sont à plein dans les objectifs de ce que recherchent les acteurs du financement. La Banque Postale tout à l'heure expliquait tous ces objectifs que la finance durable a. Ils cherchent à incorporer des financements et dans leurs actions des actifs qui opèrent cette transformation. Ben avec 1 million de mètres carrés qui sont en risque d'obsolescence, si on le regarde avec le côté vert plein, eh bien, à moitié plein, eh bien, c'est un vrai potentiel de la Défense.
La Défense a un quartier exemplaire en 2034, ce sera le mot de la fin.
Okay. Merci. On s'y emploie en tout cas.
On s'y emploie. Parfait, merci beaucoup Céline Crestin pour cet échange. Je rappelle que vous êtes directrice de la stratégie et du développement responsable Paris La Défense. Merci et bon salon.
Merci beaucoup.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Immo et Radio Territoria.